Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Adrien. Adrien est un daron dans une situation un peu particulière puisqu'avec sa compagne, ils vivent en couple, mais chacun de leur côté. Et pas juste chacun dans leur maison, non, ils vont plus loin que ça. Ils sont carrément incapables de dormir dans la même chambre et surtout sous le même toit. Ce qui pourrait paraître étrange au premier abord se révèle être une façon de fonctionner en couple qui marche depuis plusieurs années, si bien qu'ils ont fini par faire un enfant ensemble, tout en vivant toujours pas sous le même toit. Adrien raconte d'où leur vient cette particularité en tant que couple, ce que ça leur a apporté, et se livre aussi sur l'après-accouchement et le temps qu'il lui a fallu pour s'adapter et se rendre compte qu'il était devenu papa. Un grand merci à lui pour son honnêteté, j'espère que cet épisode vous plaira. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, partagez cet épisode à quelqu'un que vous aimez et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter. J'adore pouvoir vous écrire régulièrement. Bien sûr, tout ça est gratuit. Je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Mais en attendant, voici notre discussion avec Adrien. On est avec Adrien. Salut Adrien.
Et salut Fabrice.
Ça va ?
Bien et toi ?
Ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un mail. Adrien, tu m'as envoyé un mail parce que tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé beaucoup de témoignages qui parlent de la situation que tu es en train de vivre. Tu t'es dit plus ou moins, bon bah tant qu'à faire, autant le créer moi ce témoignage-là. Si jamais il y a d'autres pères qui vivent dans la même situation, au moins il y aurait un truc qui existe quoi.
Exactement, c'est exactement pour ça que je t'ai envoyé ce mail.
Bon, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir fait cette démarche. Mais avant qu'on aille plus loin pour raconter ton histoire de daron, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Ben moi je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, j'habite vers la campagne bordelaise. Et je n'habite pas avec la mère de ma fille.
Ok. Ce qui est, a priori, le truc pour lequel tu m'as écrit.
Exactement. Exactement, je t'ai écrit pour ça, parce que je suis un daron qui n'habite pas avec la mère de ma fille, et j'ai trouvé très peu d'informations à ce sujet sur Internet. J'écoute tes podcasts depuis un moment, et quand ma compagne est tombée enceinte, j'attendais d'écouter un homme qui ne vivait pas avec la mère pour savoir comment ça se passait pour eux. Il n'y en a pas eu.
Okay.
Et du coup, maintenant, après les un an et quelques mois de ma fille, je me suis dit que ça pouvait en aider certains, peut-être, qui étaient dans mon cas. Et du coup, je t'ai contacté.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'être papa ?
C'est une question très intéressante à laquelle j'ai pas vraiment réfléchi parce que ça me paraissait naturel, en fait. J'étais avec la personne que j'aimais, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Et puis ouais, j'avais envie d'avoir un enfant, d'être père, j'avais envie de transmettre un peu ma vie, de montrer à quelqu'un aussi ce que la vie pouvait apporter et lui apporter beaucoup de choses. Et je crois que fonder une famille aussi, c'était quelque chose qui était très important pour moi.
Ok. Et donc, je veux dire, à partir de quand ça s'est manifesté plus concrètement ? C'est le jour où t'as rencontré, j'imagine, ta compagne ou la mère de ta fille, c'est ça ?
Alors, j'ai toujours voulu avoir des enfants et je crois que un homme comme moi n'est jamais prêt à être père.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, un homme comme toi ?
Un homme comme moi, c'était... Alors, vu qu'on n'habitait pas ensemble, on avait des vies très, pas différentes, mais voilà, on avait un peu chacun notre vie. Et ce fait de... On habite en ville, on faisait beaucoup la fête à cette époque, on sortait beaucoup, notamment moi. Et c'est ce truc de on est encore jeune, je voulais pas spécialement avoir d'enfants maintenant. Plus les années passaient, plus on sentait que la vie de la ville, c'était... on en avait un peu marre, en fait, et on avait envie de campagne. Et puis, voilà, c'était au fur et à mesure, on s'est dit, je crois que là, on va être prêt. Et on a... Ouais, on ressentait le besoin, je crois, d'avoir un enfant ensemble. Et,
okay.
Et c'était cool, c'était chouette.
Vous vous connaissez depuis combien de temps ?
Alors, ça fait 6 ans qu'on est ensemble.
Ok.
Voilà.
Et ta petite fille ?
Avec des hauts, avec des bas, comme tous les couples, je crois. Oui. Et ma petite fille, elle a 1 an et 2 mois.
Ok. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que vous viviez ensemble dans la même ville, c'est ça, mais dans des appartements séparés ?
Ouais, c'est ça. En fait, on vivait dans la même ville. On vivait à Bordeaux. Quand on s'est rencontrés, On s'est aperçu qu'on vivait à une rue de différence. Donc ça a facilité beaucoup les choses. Et puis voilà. Et on n'a jamais voulu vivre ensemble ou vivre avec quelqu'un même dans nos vies.
Ok, c'était un choix partagé.
Partagé. Alors moi j'ai eu des expériences où j'ai vécu avec mes précédentes compagnes. J'ai déjà vécu moi en appartement. J'ai bien vu que ça a jamais fonctionné pour moi. Ça a toujours été un calvaire.
Qu'est-ce qui faisait que c'était compliqué?
J'ai l'impression d'étouffer. Quand je vis avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il... Ouais, ça m'oppresse, en fait. Je me sens pas libre, en fait. Je crois que c'est ça. Je me sens pas libre. Et vivre seul, pour moi, c'est beaucoup être libre. Et être libre de faire ce qu'on veut chez soi, de recevoir qui on veut, à l'heure qu'on veut, d'avoir du bordel si on a envie que ce soit un bordel. Voilà, d'être libre.
Et pour autant, le fait d'être avec quelqu'un en couple, c'est aussi enlever une forme de liberté, non?
Alors, c'est enlever une forme de liberté, mais c'est une liberté qu'on contrôle plus ou moins. C'est que le jour où j'ai pas envie de la voir, je la verrai pas. Et le jour où elle a pas envie de me voir, elle me verra pas. On n'est pas obligé de rentrer dans le même appartement et de se croiser si on n'a pas envie. Et voilà. Et après, voilà, on avait beaucoup un cercle d'amis qui était très présent, elle comme moi, et on passait beaucoup de temps avec nos amis. Alors, elle m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit que sa vraie famille, c'est pas celle qu'on n'a pas choisie, c'est justement celle qu'on choisit. Et elle avait décidé que sa vraie famille, ce serait ses amis. Et du coup, elle était proche de ses amis autant qu'elle était proche d'une famille. Et il y avait ça aussi de pas interférer dans non plus trop dans la vie de l'autre et de lui laisser toutes ses libertés, ses libertés d'être avec ses amis et de pas être avec son compagnon obligatoirement.
Ok. Bon, alors ça, après, j'imagine que c'est une situation assez classique. Hein. On est un jeune couple, on a décidé de vivre chacun de notre côté, etc. Je pense qu'une fois que la question de l'enfant se pose, j'imagine que cette idée de vivre séparément, vous l'avez remise à plat à un moment donné. Vous êtes reposé la question ensemble, c'est ça ?
Absolument pas. Jamais.
Absolument pas ?
Non.
Ah ouais ?
On a toujours su, okay, dans nos vies, qu'on n'habiterait jamais ensemble. On sait que si on habite ensemble, au bout d'une semaine, on se sépare. On ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. C'est impossible.
Mais alors, à cause de quoi? Parce que vous avez des caractères opposés, c'est ça?
Alors déjà, on a deux caractères extrêmement forts. On a deux caractères... c'est pas évident, je pense, de nous supporter, mais oui, on a des caractères beaucoup trop forts pour réussir à vivre ensemble. C'est pas possible. Et puis, on a beaucoup de choses différentes. Moi, je suis un bordélique monstre. Et elle, il faut que tout soit rangé et tout le temps propre. On peut pas vivre ensemble. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même pour aller au-delà, on ne dort pas ensemble non plus. Jamais.
Ah ouais?
Jamais.
Ah oui, parce que j'allais dire, peut-être, en fait, vous vivez pas ensemble, mais il y a des moments où vous vous retrouvez ensemble. Forcément.
Alors, bien sûr, il y a forcément des moments où on sort ensemble. Par contre, on ne passe aucune nuit ensemble. On a essayé de le faire au début quand on s'est rencontrés pour se sentir un peu comme des gens normaux. puis on a bien vu qu'on ne dormait pas, en fait. On n'arrivait pas à dormir quand il y avait un autre humain qui était avec nous.
Ah ouais. Ok.
Du coup, on a longtemps fait semblant pendant quelques nuits. Voilà. On est partis en vacances ensemble quand même. On a essayé de dormir ensemble en vacances. Mais pareil, on dort très mal quand il y a quelqu'un avec nous. Donc voilà.
D'accord. Et ça veut dire forcément être dans la même pièce ou si vous pourriez être faire lit à part et que ça marcherait quand même?
Non, dans la même pièce, c'est impossible.
Ah ouais?
Non, vraiment. Pour nous, vivre avec un autre humain, c'est impossible.
Ok.
Et c'est pour ça que c'était très dur, moi, au début avec ma fille, parce que vivre avec un autre humain dans la même pièce... Les premières nuits où elle dormait, moi, je dormais pas non plus parce qu'il y avait un autre humain.
Ok. Bon, attends, tu vas un peu trop vite là, tu zappes quelques étapes. Mais effectivement, je pense que c'est important de parler de ça pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que je pense que c'est le couple. Attends, alors il y a deux couples assez fameux qui ont vécu.
Oui, il y en a plus que ça.
Qui vivaient comme ça. Alors je sais pas, en tout cas, de façon publique, quoi. Si je me trompe pas, il y avait Françoise Hardy et Jacques Dutronc, c'est ça qui était, je pense, les premiers.
Effectivement. Exactement.
Et puis j'avais entendu dire aussi que Alexandre Astier aussi vivait éloigné.
Exactement.
Ils vivaient pas dans le même appart. Alors ils ont fini par se séparer, si je me trompe pas.
Oui, oui, oui.
Mais ils ont eu cinq enfants ensemble, je pense. Donc.
Alors je sais pas le nombre exact, mais je sais qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Ouais.
Ok.
Et il y a Tim Burton aussi.
Ok.
Voilà, il y a plein de couples en fait qui ne vivaient pas ensemble. Alors soit il y a eu un film aussi qui a été fait par j'ai oublié le nom.
C'est avec Romain Boringer, c'est ça, non?
Exactement, voilà.
C'est pas L'amour flou?
Je crois que c'est ça.
Ouais.
Je crois que c'est ça, ouais.
OK.
Oui, oui. Alors là pour le coup, ils se séparent.
Ouais.
Pour ne plus vivre ensemble, mais ils ont dit cette phrase qui est si dès le début on ne serait pas installé ensemble, on se serait pas séparé. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est ne pas vivre avec la personne, ce qui permet de justement avoir une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus durable.
Alors ils vivent sur le même palier, je pense, dans ce film, c'est ça, mais dans des appartements
ouais,
séparés.
Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
C'est intéressant parce que je vois bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est hyper intéressant aussi que vous dites tous les deux, bon, ok, on a envie de faire un enfant ensemble, mais ce projet de base qui est de pas vivre ensemble, on va le garder tel quel. Vous avez réussi à tenir, entre guillemets, le coup. Comment s'est passée la grossesse alors que vous viviez pas ensemble, justement?
La grossesse s'est plutôt bien passée. On a fait tous les rendez-vous qu'elle avait, ou quasiment tous les rendez-vous avec notre sage-femme, on les a fait ensemble. Enfin, voilà,
T'as participé à la grossesse, quoi.
Ah oui, j'ai participé complètement à la grossesse. Et souvent, quand j'en parlais avec ma famille ou avec des amis, j'ai souvent dit, Marianne, elle est enceinte, mais on a accouché. Parce que je l'ai vraiment vu comme quelque chose qu'on faisait à deux, en fait. Même sa grossesse, j'ai essayé de l'accompagner le mieux que je pouvais, même si je travaillais à côté et que voilà, j'avais pas non plus mes journées libres, mais essayer de l'accompagner le mieux que je pouvais. Et la grossesse, c'est bien passé.
Ok. Et est-ce que, justement, le fait de pas vivre ensemble vous permettait de pouvoir vivre chacun de votre côté quand il y a toujours des moments un peu plus compliqués dans la grossesse, mais peut-être pas pour vous?
Dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'est passé très vite, sa grossesse, qui a pas eu de moments spécialement compliqués. Alors, je pense que si elle m'écoutait là, elle me dirait l'inverse, mais mais dans mes souvenirs à moi, c'était pas compliqué. Elle a juste fait attention à ce qu'elle mangeait parce qu'elle voulait pas prendre beaucoup de poids. Je pense que c'était ça qui était le plus dur. Mais sinon, ça s'est relativement bien passé.
Ok. Bon, en tout cas, toi, de ton côté, t'as la sensation que ça s'est bien passé.
Oui, 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 complètement.
Ok. Moi, il y a une question que je me pose, c'est comment tu fais vers la fin de la grossesse? Quand à tout moment, t'es sur le point de... Enfin, en tout cas, elle est sur le point d'accoucher. Est-ce que vous continuiez à vivre pas très loin?
Alors, on a toujours continué à vivre à quelques rues de différence. On a déménagé entre-temps à Bordeaux, dans des nouveaux apparts, mais on est toujours resté assez proches, que ce soit à pied ou... Voilà.
Vous déménagez ensemble?
Non.
Ok. Non, ce que je veux dire, c'est que vous déménagiez, si l'un déménageait, l'autre déménageait quelques
ouais,
temps plus tard.
Ouais, alors on a à peu près fait ça, juste pour avoir des apparts un peu plus grands ou un peu moins chers.
Okay.
Mais vu qu'on habite à Bordeaux et que c'est pas une grande ville et qu'on aime plus ou moins les mêmes quartiers, voilà, on a emménagé dans des quartiers qui étaient vraiment proches.
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu disais que tu vivais aux alentours de Bordeaux, c'est-à-dire que...
Ouais, aujourd'hui, on vit à la campagne.
Okay.
Elle a acheté une maison et moi, j'ai acheté un appartement.
Ok, d'accord.
Voilà. On habite à 5 minutes en voiture, l'un de chez l'autre.
D'accord, ok. C'est intéressant. Et donc, vous avez décidé en même temps de faire ce projet d'achat, c'est ça? C'est marrant.
Alors, malheureusement, je suis un homme qui est assez lent à prendre des décisions. je ne vais pas me le cacher. Elle a pris ses décisions beaucoup plus tôt que moi. Elle a acheté une maison, elle, à la campagne un an avant que notre fille arrive. Donc on a travaillé un peu, on a fait les travaux, etc. Puisqu'il y avait pas mal de travaux à faire. Malheureusement, on n'a pas fini la maison avant que la petite arrive. On en parlera peut-être plus tard. Et moi, j'ai acheté un appartement quelques mois après la naissance de ma fille.
Ok. Pourquoi tu me disais on en parlera peut-être plus tard? Parce que comment s'est passé l'accouchement?
L'accouchement s'est passé... bizarrement.
Ok.
En fait, nous, on devait accoucher dans une maison de naissance. En fait, c'était dans une clinique. Il y avait une espèce de grand appartement qui était un peu privé où les femmes qui le désiraient pouvaient accoucher dans ce lieu où tu pouvais accoucher de manière naturelle. Donc accoucher dans une baignoire sans péridurale si la femme le désirait, voilà, avec toutes ces choses là. On avait décidé d'accoucher là-bas. Malheureusement, cet hôpital a décidé de fermer notre maison de naissance quelques semaines avant qu'on accouche.
Ok.
Du coup, on s'est retrouvé sans clinique, sans hôpital quelques semaines avant, ce qui était assez stressant.
Ah bah oui. Ils vous ont pas proposé une solution de repli ?
Très clairement, on nous a dit allez vous faire foutre.
Ok.
Vraiment. C'est un peu compliqué en fait parce que c'est des histoires de loi, de la manière dont les choses sont faites, voilà.
Okay.
Le corps médical n'était pas en accord avec les méthodes naturelles.
Okay.
Pour eux, ça représentait beaucoup trop de risques, donc ils ont décidé de fermer cette maison de naissance.
D'accord.
Du coup, c'était bande de hippies, allez vous faire foutre.
Ah ben à ce point-là ?
Ouais, vraiment. Okay. Ouais, vraiment. Voilà, donc la sage-femme qui nous accompagnait, elle, a essayé de nous trouver quelques solutions. Donc on a pu se rapprocher de quelques hôpitaux qui avaient des choses plus ou moins naturelles. Donc on a été voir ces hôpitaux-là. C'était la première fois que je voyais une salle d'accouchement. J'avais l'impression de me voir dans les années 30, avec des trous dans les murs, de la peinture complètement morte, du matériel archaïque. Ça m'a fait vraiment un choc, en fait, de voir des salles d'accouchement aussi vieilles, qui m'a complètement fait fuir. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Au final, ça s'est déclenché un mois avant le terme.
Ok.
À 8 mois, du coup, perte des os. Du coup, on n'avait pas vraiment le choix. On était à l'hôpital de Bordeaux, en fait. Et je crois qu'on a bien fait. Parce qu'on est tombé sur une chambre qui était relativement neuve. Et des gens qui ont su nous écouter. Donc c'était... Alors ça va être un peu plus compliqué de parler de ça, mais je vais en parler.
Pourquoi ?
Parce que l'accouchement a été particulier. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma compagne a perdu les os, mais la poche ne s'est pas percée.
Okay.
Donc il a fallu attendre qu'elle ait vraiment des contractions, que la poche se perce, etc. Qui n'est pas arrivé avant la date limite. Du coup, ils ont voulu la déclencher. Heureusement, quelques heures avant le déclenchement artificiel, elle a eu un déclenchement naturel, mais la poche n'était pas assez percée, donc une sage-femme a dû percer la poche d'elle-même, ce qui était déjà un peu compliqué je pense à vivre pour ma compagne et moi d'être là et d'être un peu impuissant face à ça. Et puis après, ma compagne voulait accoucher sans péridurale. Donc on avait tous les exercices de sophrologie, d'accompagnement. Donc je l'accompagnais aussi autant que je le pouvais. Jusqu'à un moment où j'ai vu que ça n'allait absolument plus. Du coup, j'ai moi-même demandé la péridurale, qu'on lui fasse la péridurale. Parce que vraiment, là, je voyais dans ses yeux qu'elle était à bout de force et qu'elle ne pouvait plus rien faire.
Ok. Ça a duré longtemps ?
Ça a duré... ça a duré... je crois que ça a commencé le matin et c'était à 16h. À 16h, je crois qu'elle a eu la péridurale.
Ok.
15h, 16h, voilà, bon, vers le début, milieu d'après-midi.
Elle était ok avec le fait que tu demandes la péridurale ?
Je pense qu'elle était ok parce que sinon elle était plus là en fait. Du coup, okay. une fois que j'ai pris cette décision, on se l'est pas dit, mais j'ai très bien vu dans son regard et dans ses gestes de merci, t'as bien fait.
Ok. Voilà. Parce que tu penses que elle était dans. Alors c'est sans doute une question qu'il faut lui poser, j'imagine, mais de ton point de vue, tu penses que comme elle s'était fixée l'objectif d'accoucher sans péridurale, le fait de la demander. Elle aurait pu le percevoir comme un échec de sa part, c'est ça ?
Elle l'a perçu comme un échec.
Ah ouais, okay.
Elle l'a clairement perçu comme un échec. Je le sais, hein.
Okay.
Mais c'était dans tous les cas, on n'avait pas le choix.
Oui, j'imagine.
voilà, on n'avait pas le choix, du coup, voilà.
Comment toi, de ton côté, t'expliques le fait qu'elle le vive comme un échec ? Alors, je comprends bien l'idée de se dire « je vais faire en sorte d'accoucher de la façon la plus naturelle possible », etc. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi elle le vit comme un échec, alors que l'objectif, à la fin, c'est quand même, tu vois, de finir par avoir un bébé et que tout le monde s'en sorte le mieux possible, quoi.
Parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle tout ce qu'elle ne réussit pas comme elle le souhaite, elle le vit comme un échec.
Ok.
Dans sa vie en règle générale.
Ok.
Donc bon, elle rebondit toujours. Hein, c'est voilà, ça se passe très bien après, mais sur le moment, ça a été un échec.
Ok, ok.
Voilà, au final, ben l'accouchement en soi, ça a été après la péridurale, donc elle a pu accoucher. Voilà, ça s'est bien passé. Jusqu'au moment où, alors, notre fille était là, notre fille était avec nous. C'était la plus belle petite fille au monde, avec ses grands yeux et beaucoup de cheveux quand elle est née. Le premier mot de la sage-femme, c'était, eh ben, on peut pas se tromper sur le père. En effet, ma fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. voilà, et extraordinaire. Mais on a très vite déchanté parce qu'on a vu que dans le regard de la sage-femme, ça se passait pas comme prévu. Après l'expulsion du placenta, ma compagne a fait une hémorragie. Mais ça, on l'a compris qu'un peu plus tard, parce que la seule chose que je regrette un peu dans cet accouchement, c'est qu'on a vu qu'il y avait un truc qui se passait mal. Mais personne ne nous a dit quoi. Et tout ce qu'on a vu, c'est une sage-femme qui a appelé une autre sage-femme à l'aide, qui, cette sage-femme-là, a appelé encore une autre personne à l'aide, et que en quelques secondes, on passe de « on a notre fille qui est près de nous » à « il se passe quelque chose de pas cool, on sait pas ce que c'est, il y a énormément de monde autour de nous qui sont en train de lui masser le bas-ventre et d'essayer d'arrêter l'hémorragie. » Moi, à ce moment-là, j'ai ma fille dans les bras, mais en même temps, je vois dans le regard de ma compagne que ben, elle sait pas ce qui se passe, en fait, et qu'on ne lui dit pas qu'il y a plein de choses... plein de personnes, plein d'agitation et personne ne nous rassure en fait. On est là laissé un peu pour compte et personne ne nous dit rien. Mm-hmm. Donc c'était un moment un peu dur. Moi j'ai senti que je tombais dans les pommes à un moment.
Ah merde, ok.
Ouais, parce que en fait, l'ascenseur émotionnel...
J'allais te demander, mais c'est peut-être une question naïve, mais je me rends pas compte. Mais t'as pas pensé à ce moment-là à demander des infos, non ? Dans la précipitation, c'est compliqué.
C'est compliqué et après je pense qu'on avait tous les deux compris avec ma compagne de il faut qu'on les laisse faire.
Ouais.
On sent que c'est vraiment une urgence. Il faut pas qu'on perde du temps non plus à leur demander ce qui se passe et tout. Il faut agir vite. Et je pense qu'elles ont fait très bien leur travail. Hein. Je remets pas du tout en cause ça. Juste que ben ce manque de communication qui est peut-être normal parce que fallait qu'elles agissent. Mais à côté de ça, nous, bah, on savait pas en fait ce qui se passait. Et excuse-moi, c'est un peu compliqué.
Ouais, je sais. Prends le temps, hein, t'inquiète. Hein.
Ouais, bien sûr.
On n'est pas pressé. Tu veux boire un verre d'eau, tu peux boire un verre d'eau. Tu vois,
ouais, pas... t'inquiète, j'ai pris un verre d'eau à côté de moi au cas où. Mais et j'ai vu en fait dans le regard de ma compagne de est-ce que c'est la fin ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que... C'est... En fait, on ne sait pas. Et son regard de... Je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas où on va aller. Franchement, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur à vivre. Et j'arrive pas à m'empêcher de pleurer à chaque fois que j'en parle.
Ouais. En fait...
Voilà.
c'est pas grave que tu pleures. Tu sais,
oui, bien sûr.
En fait, je pense qu'il y a un truc dramatique aussi, et dans la vie des darons, c'est que à ce moment-là, on est totalement impuissant, quoi.
Oui. Oui. En même temps, on est impuissant, et en même temps, moi, j'ai réussi à me dire que rien que d'être là tous les deux, rien que la présence, c'est déjà quelque chose, en fait. C'est le fait d'être impuissant dans les gestes, mais le fait d'avoir une présence. Qui est vraiment là, en fait. Il y a ce truc de ben, je suis impuissant, mais je suis là et ça sert quand même à quelque chose, en fait.
Tu disais que t'étais sur le point de tomber dans les pommes aussi, c'est ça ?
Ouais, alors j'étais. Ouais, voilà. Donc, trop d'émotions, ascenseur émotionnel de fou. Donc, j'ai demandé à une sage-femme, ben, aidez-moi à prendre la petite parce que je vais tomber dans les pommes. Du coup, voilà, on m'a aidé, on a pris la petite. Moi, je me suis assis. On m'a donné un verre d'eau, un peu de sucre. Voilà. Alors, au final, ça s'est bien passé. Ils ont réussi à arrêter l'hémorragie. Donc, on a pu rester quelques heures tranquilles avec notre fille. Voilà, ça nous a fait du bien quand on nous a dit ben l'hémorragie s'arrêtait, mais bon, il y a encore des risques qu'il y ait des complications, mais le gros est passé, donc c'est bon, vous pouvez être rassuré et passer un peu de temps avec votre enfant. Donc là, le soulagement, moi j'avais un mal de crâne de fou. Mmh. Voilà, mais j'étais soulagé. Voilà, on a pu remonter dans notre chambre après. Et puis on a passé une nuit dont j'ai aucun souvenir, tellement je crois que j'ai vécu la chose qui j'avais pas le temps de garder des souvenirs, tellement je vivais cette nuit. Mmh. À discuter, à regarder ma fille très certainement et à refaire un peu le monde.
Ah, t'as oublié donc, voilà. Ce qui s'est passé dans cette nuit-là, c'est ça?
Aucun souvenir. Okay. Je sais que ça s'est extrêmement bien passé. Mmh. Je sais que parce qu'une joie immense en fait. Et tellement je vivais cette joie. Ben, je crois que j'ai mis mon cerveau sur ne perds pas d'énergie enregistrée, prends cette énergie pour le vivre.
Ouais, c'est cool. C'est peut-être une question complètement naïve, mais je pense aussi que l'un des trucs des maisons de naissance, c'est qu'elles sont assez peu médicalisées finalement.
Oui.
Est-ce que tu penses que ça aurait pu de ce fait-là mal se passer si jamais cette hémorragie-là... Je ne me suis pas du tout renseigné sur les maisons de naissance, hein, tu vois, mais donc c'est peut-être une question complètement naïve, mais je ne me rends pas compte à quel point ça aurait pu mal se passer si... T'accompagnes,
oui.
Tu vois, si ça se serait passé dans le cadre d'une maison de naissance, quoi.
Alors, l'avantage d'une maison de naissance, c'est que c'est accolé, en fait,
oui.
À un hôpital.
Oui, c'est vrai.
Du coup, si t'as une moindre complication, hop, t'as juste une porte à passer, en fait.
Ok, d'accord.
T'as une porte à passer et on s'occupe de toi et il n'y a pas de souci. C'est aussi pour ça, on avait discuté de l'accouchement à la maison. Ma compagne voulait, elle, accoucher à la maison. Et moi, j'ai pas voulu. Même si je sais que c'est son corps, son choix, etc. Mais ouais. C'est aussi mon enfant. Et on a beaucoup discuté. Et moi, je me suis dit, pour un premier enfant, je préfère qu'on soit un entre-deux dans une maison de naissance qui ait mis le confort d'une maison, mis un peu médicalisé s'il y a besoin. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce compromis-là.
Ok. Bon, alors, pour info, pour les gens qui écoutent, a priori, j'ai un rendez-vous très prochainement avec un papa qui m'a envoyé un message pour accoucher à la maison. Donc, il devrait y avoir un épisode qui va arriver tôt ou tard. Voilà, c'est juste pour vous dire. Je me permets de faire du petit teasing en passant, hein, tu vois.
Tu fais bien. Tu fais bien, c'est ton émission.
Et donc, oui, donc voilà, le bébé est arrivé.
Le bébé est arrivé, très heureux. Mais une problématique, c'est que ma compagne devait rendre son appartement et emménager dans sa maison.
Ok.
On était pile à ce moment, vu que notre fille est arrivée un mois plus tôt.
Ouais.
On était normalement dans le mois où on s'était dit, bon ben voilà, là on déménage, là on se fait bien, un mois à l'avance, on prend notre temps et on est bien. Sauf que on avait son appartement à rendre, donc en même temps qu'elle était à la maternité, j'allais faire ses cartons chez elle. Et puis on a rendu son appartement. Sa maison n'était pas terminée, donc son père a été terminé sa maison pour qu'elle puisse emménager. Du coup, les quelques jours qui nous restaient avant qu'elle puisse emménager dans sa maison, elle est venue vivre dans mon appartement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais... On ne peut pas vivre ensemble.
Avec ta petite fille alors, c'est ça?
Avec ma fille.
Okay.
Avec ma fille. Mais vu qu'on ne peut pas vivre ensemble, moi, je suis parti vivre quelques jours chez mon père.
Ah ouais ?
Oui.
Mais vous êtes radicaux, ça rigole pas.
Ah mais on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas imaginable.
Mais quand vous partez en vacances ensemble, il y a des moments ?
On est parti en vacances ensemble. On a dormi ensemble, mais on dormait pas. On peut pas dormir. C'est pas possible. Du coup, très compliqué ou très mal. Donc, ouais, non, on peut pas. On peut pas. C'est pas possible. Mais alors, on est en train de planifier des vacances en réservant soit une chambre d'hôtel chacun, soit un appartement avec plusieurs chambres ou voilà.
Ok. Donc toujours cette indépendance.
Exactement.
Entre vous.
Primordial.
Très important. Et pourtant, vous avez créé le pire. Fil à la patte, si je puis dire, entre vous, qui est un enfant, quoi.
Ben oui.
Vous pourrez plus jamais être dissocié, c'est impossible.
Mais parce que si c'était trop simple, on se ferait chier. Il faut bien rajouter quelques complications. Et ouais, on a créé ce lien-là. Mais en même temps, c'est le lien qui scelle un peu tout ça, en fait, de se dire c'est compliqué, mais au final, c'est pas si compliqué que ça quand on organisait. Et ça change rien en fait. On a toujours su qu'on voulait un enfant ensemble. Je sais que même si un jour, la vie peut faire qu'on ne soit plus ensemble, ça reste la personne avec qui j'ai voulu faire un enfant en fait.
Okay.
Et parce que c'est une personne, au-delà d'être la femme que j'aime dans ma vie, et c'est une personne extraordinaire.
Okay.
Du coup, dans tous les cas, c'est avec cette personne-là que je veux faire un enfant.
D'accord.
Que je voulais faire un enfant.
Comment se passent les premiers jours donc à distance, c'est ça? Parce que toi, est-ce que tu vis
ouais,
de ce fait-là? Est-ce que tu viens vivre? Est-ce que tu viens passer, je sais pas, quelques heures dans ton appartement? Donc si j'ai bien compris, avec
ouais,
ta femme
passe,
et ta fille, c'est ça? Comment ça s'organise entre
vous? On passe la journée ensemble.
Okay.
Tant qu'elle habite dans mon appartement, on passe nos journées ensemble. Je rentre dormir chez mon père. Voilà, ça dure vraiment. Je crois que c'est 4-5 jours. Je crois.
Okay.
Que ça a duré. Donc voilà, à peu près comme un couple normal, sauf qu'au final, on ne dort pas ensemble le soir.
Ouais.
Donc voilà, ça se passe plutôt bien, même si c'est dur en réalité, parce qu'elle dort très peu. Vraiment très peu. donc voilà, mais ça s'est plutôt bien passé jusque-là.
Et t'as pas la sensation de rater un truc, entre guillemets, parce que de ce fait-là, j'imagine que tu laisses les nuits à ta compagne.
Ouais, en effet.
Te l'a jamais reproché, ce que je veux dire.
Oh, on va y venir, t'en fais pas.
Ok.
Dans tous les cas, on ne peut pas dormir ensemble, mais il faut que ce soit la mère qui reste avec l'enfant les premiers jours. C'est comme ça qu'on l'a vu. Du coup, c'est comme ça qu'on a fait. Et à ce moment-là, très peu de souvenirs aussi, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé, même si c'était quand même dur. Ça s'est moins bien passé après quand elle a emménagé dans sa maison, que moi j'étais encore à Bordeaux, que j'avais pas déménagé. Où là, je crois que j'ai eu du mal à comprendre ce rôle-là en fait, de passer des nuits avec ma fille, parce que c'était vraiment, en fait, je crois que j'ai eu du mal à me rendre compte de la difficulté que c'était pour elle d'être avec ma fille toute la journée. De faire quasiment toutes les nuits, que moi j'habitais à 35 bornes ou 40 bornes de chez elle, que ouais, je crois que je me suis pas rendu compte de la difficulté qu'elle était en train de vivre.
Ok.
Je passais quelques nuits là-bas à dormir avec ma fille, et elle venait dormir dans mon appartement à Bordeaux, mais je suis sûr j'ai pas été assez présent en fait. Et parce que ça me paraissait un peu naturel de comme on visait avant, d'être chacun chez soi. Sauf que là, vu qu'il y avait l'enfant en plus, c'était un peu plus compliqué de passer des nuits en fait séparées, et qu'elle garde beaucoup de nuits pour elle avec l'enfant. Et
ah ouais.
Je sais que c'était une période extrêmement dure à vivre pour elle, qui quasiment que de ma faute, parce que j'ai pas été assez présent dans les moments durs en fait. Et
vous en parliez ensemble?
Je crois qu'elle m'en parlait, mais que je n'arrivais pas à entendre, en fait.
Ok.
C'est une période où je me rendais pas compte, en fait, de la difficulté qu'elle était en train de vivre. Elle me l'exprimait, mais je ne me rendais pas compte, je crois.
Ok.
Donc, c'était une période, je sais qu'aujourd'hui, pour elle, c'est une période qui était vraiment difficile dans sa vie. Où, Bah déjà, le fait d'avoir un enfant, c'est très difficile. Quand on ne vit pas ensemble, c'est encore plus difficile. Mais quand on ne passe pas les nuits ensemble et que la mère garde l'enfant la plupart du temps, c'était beaucoup trop pour elle, je pense, et ce qui est totalement normal.
Ouais, j'imagine.
Donc on en a beaucoup parlé plus tard, mais sur le moment, voilà, j'arrivais pas à m'en rendre compte.
Et avec le recul, est-ce que tu as réussi à analyser un petit peu ce qui faisait que tu n'arrivais pas à l'entendre sur le moment ? Est-ce que c'était parce que vous étiez encore, tu t'attachais encore à ce vieux schéma, entre guillemets, de ta vie d'avant, d'être papa ?
En fait, ouais, voilà, c'était complètement ça. J'étais encore dans ma vie d'avant, en fait. J'avais un enfant, donc voilà, j'ai essayé d'être un bon père pendant les moments où j'étais avec ma fille, mais j'étais encore beaucoup trop attaché à ma vie d'avant, en fait. Et je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas naturellement réussi à passer le truc de me dire, ben non, tu peux plus te permettre de vivre comme avant, en fait. C'est plus possible. Et j'y suis pas arrivé. J'étais bloqué un peu, ouais, de ce truc de changer de vie un peu, de un nouveau passage dans ta vie. Je pense que voilà, j'ai eu un gros blocage là-dessus et que j'ai pas réussi à passer le pas avant. Ça a duré quelques mois, en vrai.
Ok.
Mois qui ont été assez durs.
Est-ce que t'avais pourtant pris conscience du fait que t'allais devenir papa pendant la grossesse ?
Ouais, j'avais complètement pris conscience de ça. Mais en fait, il y avait juste ça qui... Juste le fait de... En fait, je sais pas encore trop, mais je sais que j'ai pas été assez là et parce que j'avais du mal à prendre, à quitter ma vie d'avant, à passer dans une nouvelle vie, à faire le changement en fait. Le changement dans ma vie a toujours été une complication. Et
bah t'étais pas le seul, hein, t'inquiète pas.
Ouais, mais je me doute bien. Je sais que on est beaucoup de papas quand c'est un grand changement comme ça, c'est un peu compliqué, mais. Mais ouais, enfin, j'ai essayé d'analyser beaucoup. J'ai même été voir quelqu'un pour analyser aussi toutes ces choses-là.
T'es voir un psy, c'est ça ?
Ouais. Je suis allé voir un psy. Alors, c'est assez récent quand même. Hein, mais, okay. Mais voilà, j'étais voir un psy pour le sens tout ça aussi.
Mais c'est cool de le dire, je pense, parce que ça prouve aussi.
Bien
que
sûr, complètement.
C'est bien d'aller demander de l'aide, quoi. Tu vois, quand t'es un peu bloqué. Est-ce que t'avais peur de. Comment dire, de quitter ta jeunesse, peut-être quelque part, et une vie d'insouciance ?
Oh, mais complètement, bien sûr. C'était complètement ça. Enfin, j'avais peur de devenir un daron, en fait.
Ouais.
Moi, j'étais encore à aller voir mes copains, à faire un peu la fête. Alors, tu vois, je dis ça, mais en vrai, cette vie, j'avais arrêté un peu de la faire en vieillissant. Mais c'était toujours un peu le cas au fond de moi de cette possibilité de faire un peu ce que je voulais. Et je crois que j'avais énormément peur de quitter ça, en fait. Et énormément peur d'avoir des obligations, énormément peur de devenir un daron, en fait. Hein.
Non, mais c'est cool. Merci pour ton partage. Ça...
Mais avec plaisir.
Non, mais je pense aussi que c'est intéressant parce que je pense aussi que le fait d'avoir voulu garder votre indépendance comme ça, très forte, chacun de votre côté. Il y a aussi, je pense, et c'est très louable, hein, tu vois, un côté, on n'a pas envie de rentrer dans une vie, avec des contraintes, qui est peut-être plus aussi dans la norme, parce que je pense que, en fait, je pense pas que vous ayez beaucoup de potes qui vivent comme vous aujourd'hui dans des maisons séparées. C'est assez intéressant.
Bah ouais, alors en effet, on n'en a pas beaucoup. Par contre, plus le temps passe et plus on a des gens qui nous disent, avec le recul, je crois que j'aurais fait comme vous.
Ouais.
Ah ouais, et alors, bizarrement, on a aussi des personnes un peu plus âgées qui nous disent qu'eux, ils ont connu des gens qui faisaient comme nous. Et qu'eux, ils auraient peut-être aimé faire ça aussi. Mm-hmm. Mais qu'au final, les gens ne le font pas. On n'a toujours pas compris pourquoi les gens continuent à vivre ensemble s'ils n'ont pas envie de vivre ensemble, à part d'être dans la normalité. Mais
Je pense que c'est surtout ça. Après, il y a peut-être aussi une histoire d'économie d'échelle, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est toujours moins cher. De diviser un loyer ou un crédit par deux, quoi, tu vois.
Ouais, ça c'est sûr, mais en fait, moi je me suis toujours dit que si ça empiète sur ton bonheur, c'est que c'est pas une bonne raison. Il n'y a pas une raison qui est au-dessus de celle de ton bonheur. Si tu vis avec quelqu'un pour avoir moins de frais, mais à côté de ça, t'es moins heureux, bah c'est dommage, parce que le but dans la vie c'est d'être heureux, je crois.
Ah mais je t'entends complètement, mais je pense que l'un des problèmes aussi, peut-être dans la société actuelle, c'est qu'on rattache le bonheur à un aspect peut-être matérialiste aussi, quoi. Ce qui est...
Complètement, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Bon, et aujourd'hui, comment ça se passe alors? Parce que donc, vous êtes, j'imagine que vous êtes rapproché à un moment donné, c'est ça?
Voilà, donc moi j'ai acheté un appartement à la campagne.
Est-ce que tu t'es rapproché aussi parce qu'il y a un moment donné où ta compagne t'a dit ça suffit maintenant, il va falloir que tu te sortes les doigts et que tu te rapproches?
Alors c'était prévu moi que je me rapproche, mais comme beaucoup de choses dans ma vie, je tarde à faire les choses. j'avais déjà moi prévu d'acheter depuis un moment, mais je visitais des choses, ça me plaisait pas ou c'était trop cher, enfin voilà. J'aurais dû louer quelque chose ici en attendant de trouver à acheter. C'est un pas que je n'ai pas fait, c'est un pas que j'aurais dû faire, malheureusement voilà, blocage dans ma vie, pareil pour plein de choses, j'ai pas réussi à sauter le pas, du coup ça a beaucoup tardé. Au final j'ai quand même réussi à trouver quelque chose à acheter ici depuis le mois d'août dernier. Donc voilà, depuis le mois d'août on habite à 5 minutes l'un de l'autre à la campagne. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Voilà, on a trouvé notre rythme, notre façon de vivre, même si actuellement avec le confinement, ça c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, voilà, on a trouvé en fait notre schéma de vie et voilà.
Mais alors, comment vous faites avec le confinement? Vous arrivez quand même à vous balader entre vos maisons respectives, c'est ça?
Ouais, parce que sur le confinement, il y a impératifs familiaux. Et vu que nous, on a officieusement, on a une garde partagée, très compliqué ces histoires de... Ah oui, parce que faut savoir que par rapport à l'État, par rapport à la CAF, par rapport à plein de choses, notre situation n'existe pas.
À ce point-là.
Bah oui, pour eux, si les parents n'habitent pas ensemble, c'est qu'ils sont forcément séparés. Donc, forcément, il y en a un qui a la garde. Nous sommes des parents qui n'habitent pas ensemble.
Vous n'êtes pas mariés?
On n'est pas mariés.
Okay.
On n'est pas mariés, on ne veut pas se marier, on ne veut pas se paxer.
Oui.
On veut juste un enfant.
Vous n'avez pas un statut aux yeux de l'État de couple.
Exactement, on n'a pas un statut. Et quand on n'a pas un statut et qu'on a deux maisons séparées, donc une garde alternée... C'est très compliqué en fait. Donc, aux yeux des prestations familiales, etc., c'est un enfer. Du coup, on a déclaré ce qu'on a pu déclarer, au mieux qu'on pouvait. Mais du coup, j'ai le statut avec le confinement de impératif familial à aller récupérer ma fille parce que c'est une garde partagée.
Ah, ok.
Donc, voilà. Et j'ai la chance d'habiter à la campagne où la police en vrai ne nous embête pas trop.
Ok.
Donc pour nous, voilà.
Vous êtes organisé comment alors que tu disais vous avez une garde alternée, c'est ça vraiment? Ou alors
Alors on a une garde alternée, on a certains jours chacun.
Okay.
Alors faut savoir que ma compagne ne travaille pas actuellement. Moi j'ai un travail à Bordeaux, ce qui fait que certains soirs de la semaine je la garde, je la ramène le lendemain matin et moi j'ai arrêté de bosser le vendredi pour passer du temps avec ma fille. Donc voilà, tous les vendredis, tous les dimanches j'ai ma fille. Tous les samedis, elle est avec ma compagne. Et certains soirs de la semaine, je l'ai. Et certains soirs de la semaine, c'est ma compagne qui l'a. Et puis, on passe des moments ensemble.
Ça, j'allais dire. Est-ce que vous passez quand même des moments à trois?
Ouais, bien sûr. Alors là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais sinon, on passe des moments à trois, bien sûr. Quasiment tous les week-ends, vendredi, dimanche, samedi, on mange ensemble le midi. On passe l'après-midi ensemble. Voilà, c'est trop bien. Là, on a hâte que le confinement soit terminé pour qu'on puisse se retrouver le soir, qu'on puisse passer un peu de moments ensemble le soir sans qu'on reste d'avoir une amende.
Ok.
Parce qu'actuellement, c'est compliqué, mais voilà. On a toujours fait ça, nous. On s'est toujours vu le soir ou les week-ends. Chaque moment où on ne travaille pas et qu'on a envie de se voir, en fait.
Oui, je comprends très bien. Est-ce que vous vous y retrouvez aujourd'hui dans cette organisation-là? Est-ce que... comment dire, est-ce que tu as la sensation que ça t'apporte quelque chose en plus d'avoir beaucoup plus ta fille que pour toi plutôt que à trois?
Ouais. Passer des moments avec ma fille juste tous les deux, c'est extraordinaire. C'est il y a des moments où elle est vraiment insupportable, mais sinon c'est trop bien d'être que tous les deux, de partager vraiment un moment très complice en fait. Et puis c'est aussi extraordinaire de passer des moments à trois. Enfin, pour moi, je m'imagine pas ma vie sans tout ça, sans la moitié de ma vie à deux, la moitié de ma vie à trois, en fait.
Ok. Et du côté de ta compagne ?
Ouais, c'est pareil. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est pareil. Bon, elle l'a beaucoup plus que moi, donc forcément, des fois, elle est contente d'être libre et tranquille. Contente que je récupère le soir ou contente que je la prenne. Des fois, ça lui fait du bien d'être seule. Donc voilà.
Ok. Bon, ta fille, elle est encore un peu petite, mais comment vous comptez lui expliquer ? Est-ce qu'elle se rend compte déjà de la particularité de votre situation ou pas encore ? Non, un an et demi, c'est encore petit.
Ouais, elle a un an et deux mois là.
Ah
donc,
oui, même pas un an et demi, ouais, ok.
Ouais, donc là, elle se rend compte d'absolument rien, sauf que elle est trimballée chez papa, elle est trimballée chez maman, voilà, mais j'ai pas l'impression qu'elle, ça la dérange en fait. Elle arrive chez moi, elle va vers ses jouets, elle met le bazar, elle crie de joie, et puis elle fait la même chose chez sa mère, et puis voilà.
Est-ce que vous avez non, dans... Est-ce que vous avez dans le projet d'en faire un deuxième ?
Oula, non, mon Dieu. Déjà, beaucoup de difficultés avec le premier. Parce qu'en vrai, c'est pas évident. Hein. Dans tous les cas, le schéma dans lequel on est, surtout au début, où moi, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Donc c'est vraiment pas évident.
Ouais.
Et puis, c'est épuisant parce que c'est plein d'énergie, parce que ça veut pas dormir, parce que ça veut pas manger, parce que ça crie, parce que ça fait le bazar. Parce que ça écoute pas, parce que tout ça, pas pour projet d'en avoir un deuxième pour le moment. Est-ce que plus tard, en fait, moi, il y a cette réflexion que je me fais, c'est que une fois qu'on accouche, une fois qu'on passe les premières semaines, on se dit, je ne comprends pas comment les gens ont envie d'en faire un deuxième, vu comment c'est dur. Et vraiment, c'est incompréhensible.
Ouais.
Et quelques années plus tard, tu fais, est-ce qu'on n'en discuterait pas pour avoir un deuxième ? Et il y a tout ce truc-là aujourd'hui où j'ai clairement pas envie d'en avoir un deuxième, mais est-ce que dans quelques mois, quelques années, je te dirais la même chose ? J'en sais rien.
Je pense que le cerveau, il est bien fait, tu vois ?
Alors, ça dépend des jours, je crois.
Tu crois pas que le cerveau, il oublie ?
Bien sûr qu'il oublie. T'es obligé d'oublier. Parce que si tu gardes en mémoire toutes les choses difficiles que t'as vécues, tu ferais pas un deuxième enfant. C'est impossible. C'est impossible. Quand une femme vit un accouchement, déjà, jamais de ma vie je vais être une femme. Et tu te dis, le cerveau arrive à oublier ça pour te dire, je vais refaire ça. C'est incompréhensible. C'est beau, mais incompréhensible.
La dernière question que j'avais envie de te poser.
Je t'écoute.
Si tu écoutes un peu le podcast à l'habitude, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ta fille si dans 10 ans elle tombe sur ce podcast ?
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tu vois, j'ai un peu réfléchi avant justement qu'on s'appelle, parce que je savais que tu allais me poser cette question. Je crois que j'aurais plein de choses à lui dire, mais la chose la plus importante, je crois, c'est qu'elle n'oublie pas que tout ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est possible de le faire. Il n'y a aucune barrière, il n'y a rien qui pourra l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai grandi dans une famille où on m'a jamais dit que faire de la musique c'était un métier, ou être peintre c'était un métier, ou être explorateur c'était un métier. On m'a jamais dit ça. Et aujourd'hui, à mon âge, je me rends compte que on peut faire ce qu'on veut, on peut en vivre, ça peut devenir notre métier, ça peut, voilà. On peut faire ce qu'on veut, on peut voyager où on veut, voilà. Donc, j'aimerais qu'elle garde en tête que tout ce qu'elle veut faire, elle peut le faire. Et si elle a besoin de moi, je serai bien évidemment là pour l'aider à réaliser tous ses projets.
C'est cool comme, comme conseil.
Mais j'espère.
Bah Adrien, en tout cas, merci beaucoup pour le partage de cette expérience. Je trouve que c'est vraiment cool de nous montrer un petit peu un autre, en tout cas une facette d'un autre mode de vie. C'est extrêmement bien de montrer tout ça, de montrer à quel point c'est possible de sortir de la norme. Je sais pas si ça me fait penser à un autre épisode aussi qui m'a moi fait sortir beaucoup de mes schémas préconstruits, et si jamais vous l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. C'est Freddy qui a pas mis ses enfants à l'école. Je sais pas si tu l'as écouté.
Non, je crois pas.
Eh ben écoute, je t'invite à aller chercher dans la liste du podcast et d'aller écouter Freddy qui a pas scolarisé ses filles. Voilà, ça me fait un peu penser à ton histoire, votre histoire avec ta compagne me fait un peu penser à ça. C'est assez cool d'entendre des histoires qui sortent un petit peu des sentiers battus et de montrer un peu d'autres façons de vivre, quoi. C'est très cool.
Ça marche, mais j'irai écouter ça.
Eh ben, merci encore à toi. Et puis, bonne vie à tous les trois, alors.
Hein. Merci.
À bientôt, salut.
Bye.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.